Welcome to the Voice of America in Creole.
Saluer tout le monde qui a écouté. Moi, c'est Ronald César qui a invité nous suivre un programme en créole sous la voix de l'Amérique, Washington. Nous souhaitons tout le monde bonne écoute.
Dernier groupe soldat 26e contingent brésilien dans mission stabilisation Nations Unies dans le pays d'Haïti a quitté pays à lundi 25 septembre. Dépassa à entrer dans le cadre de résolution 35-20 l'ONU qui fixait le retrait progressif MINUSTAH dans le pays a qui aboute 15 octobre. Ambassadeur brésilien en Haïti a Fernando Vidal dit la voix de l'Amérique Brésil pour continuer à coopérer avec le gouvernement haïtien dans le cadre de MINUSTAH là. Nouvelle mission Nations Unies pour appuyer et renforcer le système judiciaire haïtien.
Le Brésil a déjà commencé à partir le vendredi dernier, le 22 septembre. Le premier groupe de 204 soldats brésiliens sont partis le vendredi soir. Et en quatre groupes, et j'ai l'impression que le dernier groupe part ce soir, le lundi. Et ça sera fini, et ça sera définitivement fini. Il reste là à peu près 150 officiers militaires qui partiront le début octobre. Mais les troupes, comme on les connaît, sont déjà tous parties.
Ambassadeur Vidal, pourquoi ce départ avant le 15 octobre?
Le ministère de la Défense et les forces armées brésiliennes avaient décidé déjà de ne pas arriver à la date limite du 15 octobre pour raison même de sécurité, parce que c'est important de pouvoir respecter la date décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire que le Brésil voulait respecter et s'est préparé pour partir avant même le 15 octobre.
Ambassadeur Vidal, est-ce que vous pouvez nous donner une estimation de l'effectif du contingent brésilien, les soldats brésiliens, juste avant le départ du pays?
Bon, l'effectif maintenant, la semaine dernière, c'était à peu près 900 soldats brésiliens. C'était le dernier groupe parce que vous savez que les soldats brésiliens ont commencé à partir, en effet, même avant la résolution 2350. On a commencé, ce processus de retraite a commencé il y a des années déjà. On est arrivé à avoir ici plus de 2000, 3000 soldats brésiliens et on a commencé à partir peu à peu. Mais les derniers du 26e contingent militaire, qui est le dernier contingent militaire qui était en Haïti, le dernier groupe, 204 soldats brésiliens. Et ça sera fini parce que ceux qui restent ici, c'est à peu près 100 officiers militaires de l'état-major, commandant du Brabat, et même il m'a donné le 5 ou 6 octobre. Ça veut dire que le 15 octobre, quand la date arrive, il n'y aura plus aucun militaire brésilien en Haïti.
Ambassadeur Vidal, est-ce que les autres contingents de la MINUSTAH vont rester dans le pays jusqu'au 15 octobre?
Le Chili, par exemple, avait ici en Haïti 400 soldats, surtout au nord d'Haïti, au Cap Haïtien. Ils sont déjà tous partis, les Chiliens. Celui d'Argentine, ils avaient ici à Port-au-Prince un hôpital militaire et l'hôpital militaire a déjà été fermé. Ils sont déjà partis. Il y a d'autres nationalités ici aussi qui ont déjà parti. Le Brésil est le dernier pays à partir d'Haïti. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne.
Maintenant, parlons de l'après MINUSTAH, la nouvelle mission MINUSTAH, la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice. Est-ce que le Brésil fera partie de cette mission?
MINUSTAH, résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui va commencer le 16 octobre, ça veut dire le jour après la fin de la MINUSTAH. Évidemment que le Brésil continue en Haïti et le Brésil va contribuer comme il a toujours contribué pour le succès des missions des Nations Unies en Haïti. Ce qu'on puisse faire pour contribuer, on le fera toujours si on nous demande. La mission MINUSTAH, c'est une mission différente dans le sens qu'elle va donner une priorité à l'état de droit, aux droits humains, à le renforcement de la justice et de la PNH. Et le Brésil continue ici en Haïti aussi avec d'autres priorités qu'on a ici. Ça veut dire que les soldats brésiliens s'en vont, mais le Brésil continue et le drapeau brésilien continue en Haïti. On a des projets de coopération très importants. On a une politique migratoire très importante. On a un agenda bilatéral avec le pays qui continue.
Ambassadeur Vidal, est-ce que le contingent brésilien compte rapatrier ses équipements lourds ou va-t-il les laisser sur le terrain, va-t-il les laisser en Haïti et les offrir au gouvernement haïtien?
On n'a pas tout laissé parce que plusieurs équipements doivent rentrer au Brésil les équipements militaires, les équipements, comment on dit, même les armes que les soldats utilisaient ici, ce sont des équipements qui doivent nécessairement rentrer au Brésil. Mais il y a des équipements qui ne rentrent pas parce que c'est même pas, du point de vue économique, c'est même pas comment on dit, un avantage de les envoyer de nouveau au Brésil. Alors j'ai l'impression, hier on fait une séparation entre ceux qui peuvent retourner au Brésil, ceux qui doivent rester ici, et on va voir quelle sera la destination que ces équipements qui restent en Haïti auront, ça veut dire à qui ils vont être laissés. On a déjà fait une donation, par exemple, de deux grandes génératrices qui étaient dans l'unité militaire brésilienne à Cité Soleil. On a fait une donation de ces deux grandes génératrices à la police nationale d'Haïti parce que c'est notre contribution au renforcement de la PNH. Et je ne sais pas maintenant quels seront les autres équipements qui vont être laissés ici par les militaires, mais ça sera un thème qui va être, ils vont décider ça, je crois, que dans le futur prochain.
Bien sûr.
On a signé cet accord en 2014, mais malheureusement, on n'a pas pu implémenter cet accord parce qu'on a eu des difficultés budgétaires au Brésil. Et on espère pouvoir commencer à implémenter cet accord le plus tôt possible, dès que nos difficultés soient surmontées. Ça, c'est une information très importante.
Ambassadeur Vidal, dites-nous, et avec quel sentiment le contingent brésilien quitte Haïti?
Avec le sentiment de mission accomplie et avec le sentiment, pour moi, que j'ai l'honneur d'être ambassadeur du Brésil ici, parce que je peux vous assurer que c'est le sentiment d'avoir bien accompli le devoir, d'avoir bien accompli la mission qui a duré 13 ans. On a envoyé 37 000 soldats brésiliens en Haïti dès 2004 jusqu'à maintenant. On a beaucoup aidé Haïti pendant le tremblement de terre. On a beaucoup aidé Haïti pendant le processus électoral. On a beaucoup aidé Haïti pendant l'ouragan Mathieu. Ça veut dire que maintenant que les troupes s'en vont et maintenant que ce soir, c'est le dernier groupe qui va partir vers le Brésil, je crois qu'on peut dire que, comme on dit en anglais, « mission accomplished ». Et une mission très bien accomplie pour les Brésiliens et pour tous les autres soldats de la Nostat qui ont été ici en Haïti.
Ambassadeur Vidal, est-ce qu'il y aurait des soldats brésiliens impliqués dans des accusations de violation de droits humains?
Il y a eu des accusations là d'exploitation sexuelle et tout ça. Il y a eu même 110 allégations d'exploitation. De ces 110, seulement 38 cas ont été prouvés qui ont en effet existé. Il n'y a aucun Brésilien dans ces 38 cas. Ça veut dire que je suis très fier de dire et très heureux de dire qu'on n'a pas de Brésiliens dans ces cas-là.
Et la voix d'Amérique vous remercie infiniment, ambassadeur Fernando Vidal.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Louis Jean-Pierre Leroy, et à vous et à tous les auditeurs de la Voix des Amériques, et je suis toujours à votre disposition.
Ambassadeur brésilien en Haïti, Fernando Vidal, précisé, Brésil pour coopérer tout avec Haïti pour renforcement de la police et formation dans génie militaire.
Dans le ville Sodo, qui donc dans bas plateau, dans bas département centre, nous avons depuis quelques temps une radio Kemb FM, c'est MAG Horizon FM. Sorti dans une région, allons l'autre horizon, saison après saison, son seul son, un seul nom, pour tout le monde, son passion, Radio MAG Horizon. L'inamitant cadran, checker le sans perdre du temps, pour nous, musique, la science, allez son seul fréquence, 101.9 FM, MAG Horizon FM. Radio tout le monde sodo, radio tout yon plateau.
Mesdames, Messieurs, nous avons invité à écouter un extrait dialogué avec États-Unis, édition qui était passée mercredi 27 septembre 2017, là, sous la Voix de l'Amérique.
Amis auditeurs, amis auditrices, c'est mon plaisir pour le service de la Voix de l'Amérique de présenter nos programmes limités devant nous deux fois par semaine, mercredi à vendredi. Dialogue avec États-Unis, Yorelem Lionel Dominique Desmarat.
Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy.
En Haïti, loi finance 2017-2018, là, que le gouvernement a publié ça pas longtemps dans le journal officiel là, Le Moniteur, a entré en application dans le commencement mois d'octobre, là, malgré tout gros mouvement de protestation qui a déroulé dans le pays. Même secteur populaire, qui regroupait plusieurs organisations politiques, a annoncé une série de grèves avec manifestations pour semaine ça dans plusieurs villes pour demander président Jovenel Moïse, tendez voir peuple là. Il a demandé le fait passé mais dans budget ça baisser une série de taxes que moun cap touché ti crasse l'argent ou pas capable payer. C'est ça organisation populaire déclaré nous citer au mot à mot magistrat yo dénoncer budget à tout qui d'après yo a diminué capacité fonctionnement yo.
Et président Jovenel Moïse pendant passage à New York dit la publique tout ça qui est dans budget. Le secteur populaire avait ti chef l'État si di persister dans sens ça mouvement manifestation yo pour al prendre un autre niveau pour déchouquer le sous pouvoir. Situation ça fait moun poser toute qualité question pour demander est-ce que mouvement protestation ça yo justifié tout bon frais. Qui quantité taxe soit qui augmenté soit qui ajouté en dans budget ça et est-ce que c'est pas yon autre secteur qui prend ou libre sous budget ça pour régler business personnel yo? Est-ce que c'est un déficit communication bon côté pouvoir qui pas capable expliquer moun tout bon ça qui en dans budget? Donc pour répondre à question ça yo ak l'autre que auditeur capable poser n'a bien jodi a Peterson Noël Benjamin qui c'est un conseiller dans bureau présidence là n'a bien tout président commission finance Sénat Nenel Kassi un petit moment dans programme là ak syndicaliste Maxo Senosier qui c'est coordonnateur général Union nationale pour modernisation transport. Monsieur Senosier c'est un responsable tout dans mouvement unifié transporteur haïtien. Et qu'on y a ce moment pour nous saluer, inviter nous yo. D'abord, M. Peterson Noël Benjamin, pour première participation dans Dialoguer avec les États-Unis. M. Benjamin, la Voix de l'Amérique, salut.
Bonjour, bonjour, collègues nous haïtiens, Kabrivi, surtout dans la diaspora. Et c'est un plaisir pour nous, après-midi, pour nous partager avec nous certaines informations et clarifier certains points que nous pensons que la population a besoin des informations, notamment les collègues, nous et compatriotes, nous qui vivent à l'étranger. C'est un plaisir pour moi parler avec la population.
On a salué et syndicaliste Maxo Senosier. Monsieur Senosier.
Oui, bonjour. On a salué tous les panélistes et on a salué tous les confrères concernant nous qui vivent dans la diaspora. Et Nathalie, sénateur Nenel Kassi, Nathalie et camarade nous Peterson Noël. C'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui là pour nous brasser l'idée.
Donc, d'entrée de jeu, monsieur Rémi Sanlos, nous en a parlé avec Peterson Noël Benjamin. Et autant de toutes questions, autant de toutes préoccupations, population, en pile mouvement grève, etc. Donc, il dit gouvernement publié yon budget, yon qualifié, c'est pas la Voix de l'Amérique, qui criminel parce que le pile taxe la donne, que peuple a pas qu'à payer, taxe qui augmenté, taxe qui ajouté, etc. Donc, fais-nous éclair dans le budget, ça, budget 2017-2018. Est-ce que vraiment gagne raison pour nous peur, pour que sauter population aux abois?
Bon, je veux saluer l'auditeur encore. Et moi, en tant que conseiller du président, qui a essayé d'expliquer à la population qui s'est passé dans le budget, et notre groupe, à chaque fois, mettait en défi, disons, à mon divisé à son budget criminel pour plus ou moins expliquer, parce que moi-même, je n'ai pas position. La divisé pour moi, explication pour mon budget criminel. Parce que le budget 2017-2018 que nous parlé, c'est un budget qui est élaboré et selon les délais prescrits par la Constitution, à savoir les soumettre le 30 juin 2017, les passer dans deux chambres, qu'il s'agit du Sénat ou la Chambre des députés, les jeunes en sanction. Mais cependant, nous reconnaissons au niveau de l'administration, il y avait un problème de communication qui fait que pour expliquer aux populations ensemble des mesures. Mais il faut pas nier, il y a une tentative de manipulation qui fait tant au niveau des communications traditionnelles et qui fait surtout sur les réseaux sociaux qui actuellement en concurrence avec les médias traditionnels. Et campagne de manipulation, ça vient faire que nous ensemble des informations qui sortent qui pas correctes et il y a des auto qui fondé. Et nous pensons que il y a certaines franges de la population qui ont droit pour exprimer, mais la façon de. Il y a d'autres mondes qui choisissent pour faire passer qui n'est pas normal, mais pendant le débat, on est capable d'aller en détail pour voir qui s'est arrivé.
N'a pas passé bon côté, monsieur Rémi Saint-Nosier, pour nous demander, est-ce que le capable de partager avec nous doléances secteur syndical, là, puisque c'est coordonnateur général Union nationale pour moderniser transport. Est-ce que monsieur Saint-Nosier est capable de nous 1, 2, 3, 4, une liste de reproches que nous fait et loi sous finance 2017-2018, là?
Effectivement, nous gagnons en perspective. Projet loi.
Semblait nous perdre, M. Saint-Nosier. N'a pas retourné bon côté le conseiller bureau président. Là, on a parlé de M. Peterson Noël Benjamin pour les dire est-ce que le comprendre raison d'être manifestation cap fait dans le pays, ce n'est pas n'importe où pas seulement, mais dans la ville de provinciaux. Est-ce que le cap dit nous, pour qui ça le penser, c'est manipulation cap fait dans le niveau masse populaire. Qui j'en l'explique position ça?
Avant moi-même, je m'explique au moins que le budget est publié dans les délais, mais pas oublié tout. Et le budget de la République lié normalement pour préparer la partie du 1er octobre, année avant qu'on soumette le budget. Maintenant, en 2016, nous tous rappelons, nous c'est des Haïtiens, le 1er octobre 2016, qui normalement, c'était ancienne administration qui était dirigée par Jusem Privé, c'est l'électeur au pouvoir, c'était le rôle par eux pour commencer le budget. Mais pas oublié, 2016, c'est une année électorale. Et nous connaissons tout ça passé pendant les élections jusqu'à l'arrivée du président Jovenel Moïse et le 7 février 2017. Le 7 février 2017, arrivé au palais, nous vivons une situation côté que, au niveau de l'administration publique, plus de 70% des ressources qui étaient disposées dans le budget étaient dépensées. Ça veut dire que l'ancienne administration n'a pas respecté le principe de 1/12 et des dépenses, qui vient faire que nous arrivons dans une situation côté que, en plus, nos ressources ne sont pas disponibles. Maintenant, le gouvernement lui-même lui prend poste et en masse, et il a fallu, puisque nous sommes en phase, côté qui ne sommes pas en mesure pour nous être capables de faire face à des besoins que nous avons, et nous sommes obligés de soumettre au Parlement un budget rectificatif, et ça a été passé dans le Parlement. Ça veut dire que l'administration et Moïse Lafontaine étaient pratiquement seulement 2 mois. Pour te préparer un budget et pour te soumettre dans les délais constitutionnels. Et c'est ça qui fait que, qui vient expliquer, qui vient faire que, en ensemble de consultations que nous faisons, par exemple, les consultations avec l'association des maires et FENAM pour être capable de modifier et les redevances liées au CFPB et qui n'est pas faite. Il y a d'autres consultations qui sont faites avec les gens du secteur privé, les associations patronales et le syndicat qui n'est pas faites. Et je pense que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas élaborer un budget sans consultation sérieuse. Mais il faut nous connaître tout. Un budget représente un instrument de politique publique et c'est lui-même qui vous permet, à président Jovenel Moïse, de mettre en application ensemble de promesses qu'il fait pendant la campagne et ensemble de promesses qu'il continue de faire à la population. Et sans ça, il n'est pas capable de diriger parce qu'une administration n'a pas qu'à diriger son budget. Et s'il y a des problèmes au niveau du budget, nous pensons que la loi tracée et les procédures qui prévoient par la loi pour être capable de soumettre un budget rectificatif. Et là, ça, il y a un ensemble de points que certaines franges de la population ont soulevé et nous capables de chiter analyser pour nous dans quelle mesure nous avons apporté des corrections. Mais pour le moment, je ne suis pas en mesure pour m'aller dans des débats spécifiques avant, même penser que, et s'il y a des gens qui ont des reproches, ou qu'à dire, mais en prenant par exemple le cas de CFPB, par exemple, moi, je prends ça avec les auditeurs qui attendaient. Nous-mêmes, quand vivons aux États-Unis, on connaît que l'impôt sur les propriétés bâties ou bien sur Kaïjan, c'est un bagage qui est très bas dans le pays et les États-Unis, par exemple. Et pas fini tout en tête, mais c'est pareil qui est en bas 1%. Maintenant, qui s'en est en Haïti, nous venons même pour même bas, ça est très élevé en Haïti. L'année dernière, c'était 15%. En, par exemple, la mairie de Carrefour, par exemple, nous avons parlé avec la maire, elle dit que l'île est censée environ 100 000 cailles qui sont dans la mairie de Carrefour. Je dis à la seulement, elle collecte seulement 6 000 cailles seulement dans la mairie de Capri, un locatif qui était à 15%. L'un prend des décisions pour nous baisser. Là, c'est une façon pour inciter les gens à payer moins, mais pour que plus de monde paye. Si nous avons seulement une hypothèse, ce que je dis, si nous avons payé un taux qui est beaucoup plus bas, et jusqu'à ce que nous avons payé un niveau de taxes par de plus bas que 1000 gouttes, la mairie de Carrefour est capable, je dirais, en possibilité pour collecter plus de 100 millions de gouttes par année. Mais information qu'on doit connaître tout. Pour l'année dernière, la mairie de Carrefour n'a pas collecté, pour toute hausse que le Niel n'a pas collecté 80 millions de gouttes pour l'année. Ça veut dire que moi, je pense que le débat ça qui fait, soit débat des citoyens, et il peut permettre la population à tout participer davantage dans l'activité pays. Et c'est la première fois que nous avons un budget qui va être financé à plus de 84% par les recettes de l'État. Et ça, lui-même, c'est une innovation liée. Et ma balle de surprise, c'est la première fois parce que l'ensemble des mesures qui ont commencé depuis l'administration du président Prival qui mènent jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas avoir un pays où son budget est financé par la communauté internationale. Maintenant, ils ont fait des redevances, des taxes qui ont augmenté. C'est parce que si le pays, si on doit parler d'un pays souverain, il faut que la population contribue à cette souveraineté à travers les taxes, à travers les redevances.
Merci.
Semblé, c'est là, on va mettre un point final parce que c'est tout le temps que tu as gagné. Programme, ça, tu as gagné. La donne comme régie, ingénieur Sadrak Benjamin, production Elena Skotowska, Kibordi Jean-Robert Philippe, responsable coordination pour nous. Animation, modération.
Jean-Pierre Leroy.
Jean-Lionel Desmarades qui est avec nous. Peterson Noël, Benjamin, conseiller de la présidence. Président, commission, finance, Sénat. Sénateur Nenel Kassi. Et puis Rémi Senosier, qui est coordonnateur général de l'Union nationale pour modernisation, transport. Dialogue avec États-Unis, c'est une conception. Ronald César, merci tout le monde pour attention nous. Passez un bon après-midi.
La Voix de l'Amérique diffusée opinion différente sous diverses qualités sujets. Texte nous pour le temps de l'art, c'est un éditorial qui présentait politique gouvernement américain.
Pendant une période de 30 jours entre 15 septembre et 15 octobre, les États-Unis observaient moins héritage hispanique national. Côté les célébrer histoire, pays, culture avec contribution citoyens États-Unis qui sont descendants de pays Espagne, Mexique, région Caraïbes avec Amérique centrale et Amérique du Sud. En 1968, président à l'époque, là, Lyndon Baines Johnson, qui devait rendre hommage pour voisins qui aussi d'États-Unis, a été proclamé semaine qui a donné 15 à 16 septembre comme semaine héritage hispanique. Il était choisi de ça parce que Jean s'était dit dans la proclamation Maison-Blanche qui établit mois célébration. 15 septembre marquait jour indépendance 5 pays dans l'Amérique du Sud. Là. En parlant de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Et 15 septembre, c'est jour indépendance pays Mexique. 20 années après, président Ronald Reagan a prolongé célébration pour couvrir période qui sortit entre 15 septembre et 15 octobre. Monde qui gagne héritage hispanique, donc héritage espagnol, a gagné une influence profonde sur les États-Unis, qui a contribué en pile au développement pays. En 1565, longtemps avant aucun monde t'est sorti en Europe pour mettre pied sur ça qui jeune aujourd'hui, c'est les États-Unis continentales. Là, premier colon espagnol a été bâti Fort Saint-Augustine, dans le nord état Floride. Jeune aujourd'hui, Saint-Augustine était une ville qui a bien mené et c'est la plus ancienne ville paysan qui a toujours gagné monde qui habitait la donne. Dans l'ouest paysan, il y a une série de missions sous côté de la Californie qui a grandi pour arriver dans quelques parmi villes qui sont plus en forme dans le monde. Là. Sorti San Diego avec Los Angeles dans le sud là pour arriver à Sacramento avec San Francisco dans le nord état. Et dans le sud-ouest États-Unis, il y avait bœuf mexicain qui menait bétio sous bel espace zeb dans le partie nord Rio Grande pendant deux siècles avant le premier cowboy texasio qui commencé à mener troupeau à traverser le pays. Hispanicio, qui donc Panyolio, servit à connaître dans les forces armées États-Unis, côté à défendre un principe qui chè pour Américains. Ils ont transformé l'industrie pour faire tourner l'idée tout neuf et ont dirigé et inspiré le mouvement qui poussait paysan pour faire tourner une société qui gagne plus égalité et plus justice. Pour Panyol, qui gagne racine établie dans le pays depuis plusieurs générations, pour ça qui fait venir, pour y chercher promesse États-Unis, il y a un canet idéal qui fait base pays ça, qui dit que dans le travail du, n'importe qui monde qui bâti la vie mieux, à qui ont avenir mieux pour petit li.
C'était un éditorial qui t'a présenté nous, politique gouvernement américain.
Nous sommes écoutés un programme en créole sous la voix de l'Amérique, Washington. Ronald César a dit nous merci pour attention nous.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.